Donc des questions à Thierry Jeanbrod sur, donc sur la voie hybride et sur l'œuvre de Serge Brussolo ou sur le travail du cinéma de Gilles-Mélène Gâteau. Oui, Gérard.
Il y a peut-être après quelque chose sur Brussolo et l'exposé que je trouve très intéressant. Mais je voudrais d'abord revenir sur ce que nous a dit Gilles-Mélène Gâteau, parce qu'il se trouve qu'en ce qui concerne le film de René et en ce qui concerne celui de Marker, j'ai très bien connu tous les protagonistes, si je puis dire.
Oui.
J'ai connu Chris Marker. Alors, juste l'hésitation de Marker à accepter ou ne pas accepter le terme de science-fiction, je serai très très bref, elle est liée à deux choses. On est dans les années 60, je ne sais plus en quelle année exactement,
63.
63, ah oui. Je travaillais d'ailleurs à ce moment-là aussi avec le service de la recherche, Pierre Schaeffer, et Negroni, lui-même le texte, mais ça n'a aucun rapport. Alors, cette hésitation, elle est liée d'une part au fait que nous sommes dans une période de crise aiguë en ce qui concerne la science-fiction, parce que Marker connaissait la science-fiction et s'y intéressait tout à fait, donc il ne faut pas non plus exagérer. Mais il y a d'autre part toutes les ambiguïtés politiques à cette époque de Marker. La science-fiction, c'est un genre américain, et donc il prend ses distances. Mais enfin, il n'avait rien contre la
Non,
science-fiction en tant que
c'est pas
tel.
ça.
Mais, bon, ça, c'est pas plus. Alors, en ce qui concerne Je t'aime, je t'aime, Jacques Sternberg a été un des plus grands amis, sinon le plus grand ami, toute ma vie, jusqu'à sa mort, enfin, depuis que j'avais 17 ans, jusqu'à sa mort, qui est malheureusement intervenu il y a quelques années. Et j'ai lu au moins 20 ou 30 ou 50 versions du scénario de Je t'aime, je t'aime. J'ai un peu connu aussi, mais pas aussi bien, René. Mais alors, ce que j'ai fait remarquer 50 fois à Sternberg, deux ou trois fois peut-être à René, c'est que le problème de leur scénario, il n'arrêtait pas de rebattre les cartes, c'est qu'il n'y avait pas de progression. J'ai vu le film évidemment à l'époque, je l'ai revu une fois ou deux depuis, je persiste à le trouver, disons carrément les choses, très mauvais, parce que ça n'avance pas. L'autre problème du film, c'est très bien connu aussi, c'était Olga Georges-Picot, qui ne fait pas du tout le poids dans ce film. C'était une femme absolument ravissante, absolument charmante. On peut pas, Claude Rich est remarquable, il essaye de sauver les meubles comme il peut. Mais on ne peut pas imaginer une seconde, quand on voit le film, que cette femme le fascine à un tel point que. Donc, non, mais bon, il y a un problème. J'ai dit ça à Jacques. Alors, je ne sais pas très bien qui a imposé Olga, si c'était René, je crois pas d'ailleurs, ou si c'était Jacques Sandberg, parce qu'il y a vraiment un truc, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais c'était pas, alors qu'il avait, pour ses films précédents et ultérieurs, d'ailleurs, René avait employé des personnages féminins extraordinaires, là, il est passé à côté de la plaque, enfin, et moi je trouve que enfin, le scénario n'était pas au point. Alors évidemment, en plus, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est sorti en 68, ben, ça a été irrattrapable par la suite, parce que le film ne tenait pas la route, il faut être clair, le scénario n'était pas au point. René a fini par le tourner par lassitude, hein, parce que, non, c'était effrayant, moi je voyais trois fois par semaine, au moins un ou quatre fois, Sternberg au Flore, j'allais déjeuner là, etc. Et je dois encore avoir une ou deux versions du manuscrit chez moi dans un coin, du scénario. Donc là, il y avait déjà un problème de scénario, et puis ensuite, il y a eu un problème de casting, quoi.
Bon, je crois qu'il faudrait qu'on en discute, mais disons que j'ai été très elliptique sur la question de la très longue gestation, effectivement, du film, parce que je crois que l'un des scénarios Sternberg faisait 800 pages. Donc ça a été très très compliqué, effectivement. Il y a eu sans arrêt des rajouts. En plus, René est extrêmement minutieux, enfin, extrêmement exigeant. Donc ça a été très compliqué, la relation avec Sternberg. En même temps, elle a été productive. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que le film est mauvais, donc ça, mais on ne va pas prendre trop de temps là-dessus. Je pense que c'est un film qui reste assez fascinant, et peut-être justement parce que c'est un film qui travaille sur la question du balbutiement, de la répétition, du bégaiement. Voilà. Et que la structure est, disons, sous-jacente et souterraine. Hein, je parlais de souterrain par rapport à un autre niveau, mais je crois qu'en apparence, c'est déstructuré, et en fait, il y a une structure. Bon. Mais en ce qui concerne Olga Georges-Picot, effectivement, je pense que le but c'était de prendre quelqu'un qui n'avait pas véritablement d'expressivité pour suggérer justement le caractère de sphinx, hein, de quelqu'un qui n'était pas véritablement dans le monde, qui était à côté du monde, en dehors du monde. Et donc, peut-être qu'on peut justifier le casting comme ça, outre le fait que c'est de jolies femmes, effectivement. Mais, voilà.
C'était un personnage qui est un berlien typique
de oui.
Le roman de la Belle de Flore.
Mmh. Oui, tout à fait.
Raté.
Oui,
j'ai été son éditeur pendant longtemps, j'ai essayé de le conseiller, c'est ce qu'il a le plus raté, cette idée de la femme morte.
Oui, bon, mais René reconnaît aussi qu'il a trop joué sur la ressemblance physique des différentes actrices, ce qui fait qu'il a, le spectateur s'est un petit peu, enfin, disons, c'est un peu perdu dans les différents personnages féminins, parce qu'il y a une volonté aussi de montrer que Reader n'a pas qu'un seul amour, enfin qu'il fréquente plusieurs autres femmes, avec un système de démultiplication du même en fait. Hein. Donc le je t'aime du titre est aussi présent dans la démultiplication du motif. De l'héroïne en particulier. Voilà, mais bon, c'est vrai que dire que le film est mauvais, ça paraît peut-être un peu rapide. Voilà. Ouais, d'accord.
Une autre question ? Une question pour Thierry. En t'écoutant, j'avais en tête toutes les horreurs bruxelloises et je me demandais. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être adapté au cinéma, enfin ? Et si oui, par qui ?
Oui, ben j'aurais pu dire la même chose.
Non, parce que Cronenberg est trop organique.
Ouais, c'est ça.
Il n'est pas assez dans l'inanimé. On pourrait imaginer qu'il pourrait faire une existence bis, mais c'est pas ça. L'univers bruxellois est tellement symbiotique de l'animé et de l'inanimé. Moi, je sais pas. J'aurais laissé ça à Ridley Scott il y a 30 ans. Mais ben, voilà, à quelqu'un de jeune qui a un petit peu de courage pour essayer de créer un univers de toutes pièces, quelque chose qui coulerait, qui se feintrait. Un peu comme il y avait dans Legend, qu'il y avait quelques plans dans Legend qu'on retrouve dans The Blade Runner. Je parle de plans, hein, je ne parle pas du film. Hein. Il y a des plans. Chez Ridley Scott, c'est très pictural. Donc il y a des plans qu'on peut revoir qui ont une patine tout à fait intéressante et qui auraient pu être réutilisés dans une film comme ça. Aujourd'hui, il n'y a personne qui oserait. De toute façon, il n'y a pas de public. Les studios ne produiraient jamais. C'est trop mélancolique, c'est trop triste. Celui qui aurait pu le faire le mieux, c'est Tarkovsky.
Ouais, je crois. Tarkovsky. Dans un autre genre, Danny Boyle, peut-être, mais je ne sais pas.
Oui, peut-être. Mais il
pour le côté possible.
Bonsoir.
Bonsoir.
Une question pour vous deux, en fait. Qu'est-ce qui vous attire et vous fascine dans les mondes post-apocalyptiques ? Parce qu'a priori, ça a l'air d'être quelque chose d'assez prégnant.
Je ne suis pas fasciné. Hein. La fascination, ça paralyse. Les mondes post-cataclysmiques et post-apocalyptiques sont toujours des mondes de la révélation. C'est-à-dire ce sont toujours des mondes initiatiques. Donc, c'est ce qui pose au lecteur comme au héros la question de qui suis-je dans un monde qui change ? Et ça, c'est fondamentalement la question de la science-fiction depuis le départ. Hein. Qu'on visite une autre planète, qu'on soit dans un autre temps, c'est toujours la relation du sujet avec la modification de son environnement. Modification langagière, modification du réel, modification des cadres imaginaires, symboliques, réels, les trois. Et donc, tout dans la science-fiction renvoie à ça. C'est pas du post-cataclysmique en particulier, mais le post-cataclysmique propose un certain nombre de solutions possibles avec un minimum de moyens. C'est-à-dire on détruit et ensuite on voit ce qui va se passer derrière. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant dans les romans post-cataclysmiques. C'est toute l'aventure de la reconstruction subjective dans un monde qui, lui, est en train de pourrir. Que ce soit par des biais atomiques, que ce soit des biais viraux, mais c'est la pourriture. Je suis en train de relire La Terre demeure de George Stewart, que vous aviez publié dans le temps, qui est absolument extraordinaire de précision sur la décomposition de la société et du monde. Et on voit là-dedans un personnage tout à fait particulier qui s'appelle Isherwood, et son surnom c'est Ish. Quand on sait qu'en allemand Ish c'est je, ça renvoie littéralement à la question du sujet pris avec son environnement, le réel.
Il y a une autre allusion, c'est celle à Ishi, le dernier indien.
Ah bah oui, aussi, oui.
J'ai quelque chose. Bon, je ne suis pas non plus. Enfin, en tout cas, par rapport à cette communication-là, je n'ai pas insisté sur la dimension post-apocalyptique. Enfin, j'en ai parlé parce qu'elle existe dans le film de Marker, évidemment. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'actuellement, je parlerai plutôt du cinéma, mais bon, on peut aussi parler des romans. Hein. The Road, par exemple, de Cormac McCarthy, qui a été adapté il y a 2 ans, je crois, et bon, pas si mal que ça, finalement, même si l'adaptation est un peu trop littérale, peut-être. Je pense qu'en tout cas, il y a un intérêt incroyable, et je ne pense pas que ça soit seulement lié à la fin de 2012, depuis quelques années, et depuis le 11 septembre en particulier, sur effectivement les univers post-apocalyptiques au cinéma. C'est pas nouveau, hein, ça existe, c'est un mouvement ancien, mais là il y a vraiment une constellation de films, au point que des gens font des thèses d'ailleurs là-dessus, hein, sur la dimension post-apocalyptique dans le cinéma contemporain. Je parle pas de toute l'histoire, qui est effectivement très longue, et je pense qu'il y a quelque chose d'assez fascinant, effectivement, ce que tu disais, hein, dans l'idée de quelque chose qui est en train de se déliter, enfin, qui est en proie à l'entropie, hein, tu parlais d'entropie tout à l'heure, et donc comment reconstruire sur d'autres bases cet univers, avec la question de la régression, la question de l'hybridité avec l'animalité éventuellement, etc. Enfin, bon, toutes les thématiques actuelles aussi, ça rejoint tout ce qui est fait sur le post-humain, par exemple. Enfin, bon, on pourrait parler longtemps de tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas ça qui est fondamental, ni dans le film de Marker, et encore moins dans le film de René.
Oui, c'est pour Thierry. Je ne sais pas où il marche.
Oui. Bon, pas Roger.
Ah bon, d'accord. Ben, j'ai l'impression que tu as fait une analyse des textes de Brussolo comme si c'était un cas. Et ce qui m'a gêné, c'est que tu ne prends pas appui sur le langage et toutes les séries de métaphores qui tissent ces œuvres. Pourquoi tu as laissé tomber le côté stylistique, qui est pourtant le plus beau à voir ?
Ben, je ne l'ai pas laissé tomber, je me suis inspiré justement du style. Je n'ai pas fait un cas de l'auteur. J'ai repris l'imaginaire brussoléen et je l'ai replacé dans ce que la clinique nous enseigne. C'est-à-dire que toutes les métaphores de Brussolo renvoient à des choses très psychotiques. Ça ne veut pas dire que lui serait psychotique, mais il a un usage de la métaphore qui renvoie à des processus psychotiques éminemment mélancoliques. Bon, j'ai beaucoup coupé dans mon texte où j'expliquais comment on est dans la version de la mélancolie qu'il ne cesse de réinterpréter, et c'est bien ça aussi la mélancolie. La mélancolie, c'est cet état dans lequel est le sujet lorsqu'il affirme comme ça que le monde change, qu'il n'est plus dans le temps, le mélancolique n'est plus dans le temps, il s'effondre, et il arrive de dire, moi j'ai eu un patient un jour qui s'est levé du bureau, il y avait un miroir dans la pièce, il s'est approché du miroir, s'est touché comme ça, et il m'a dit un peu comme dans Cocteau, le miroir me ment. Je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, il montre que ma droite est à gauche, il ment. C'est ça la mélancolie, c'est aussi très poétique. Et Brussolo, c'est ça, c'est il te parle, il se met de l'autre côté du miroir et il te dit tout ce qui pourrait changer si son imaginaire, si le monde pouvait correspondre à un imaginaire complètement délirant. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que quand tu rentres justement dans cette poésie, j'y fais allusion lorsque j'en ai parlé, hein, les crash-bétons, tous ces mélanges, toute cette façon d'animer l'inanimé, de leur donner un caractère presque humain, une âme, objet avez-vous une âme, ça renvoie comme ça à des processus psychotisants, hein, psychotiques, qui sont importants, parce que c'est pour ça que je dis à la fin, on est presque dans du chamanisme, parce qu'il nous raconte des histoires de folie qui ne sont pas les nôtres. C'est pas nous qui sommes fous, c'est l'histoire en elle-même, c'est le trajet des personnages en eux-mêmes, c'est le monde qu'ils rencontrent qui est fou, et à chaque fois qu'on s'y plonge et qu'on s'y laisse porter, on vit un épisode extrêmement court de folie induite, et on en sort aussi vite, puisque le roman terminé, eh ben, on est à nouveau dans notre réalité banale, et on peut recommencer depuis le départ. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette littérature, c'est cette force métaphorique, c'est cette force poétique, c'est cette forme de catharsis qui échoue à chaque fois, mais qui nous sert de modèle à un niveau subjectif si on sait y entendre quelque chose. Bien sûr, on peut le prendre uniquement pour le plaisir, mais en même temps, dans cette répétition, quand tu en lis beaucoup, tu es confronté à cette répétition étrange et ce jeu des métaphores toujours renouvelées qui te fait rentrer dans des mondes très mélancoliformes, hein, et à la limite de la paranoïa aussi, hein, il y a des éléments paranoïaques aussi qu'on retrouve, et qui, curieusement, avec le temps, se sont complètement érodés chez lui. Dans les dernières œuvres, on ne retrouve plus du tout ça, c'est plus lisse, et c'est moins intéressant.
On est dans le pré-génital, pratiquement,
ça. Oui, il y a un côté...
On est dans une espèce de chaos maternel, pré-génital, oui. Enfin, je me méfie de ce vocabulaire.
C'est ce que j'explique dans le matriciel.
Oui, tout à fait. Tout
c'est
à
du
fait.
Matriciel.
Matriciel au double sens.
Et la psychose, c'est ça. La psychose, c'est cet état qui n'a pas permis au sujet de passer l'Œdipe. Donc il n'est pas dans la structuration avec le symbolique, et c'est pour ça qu'il est dévoré d'imaginaire. Le symbolique n'arrive pas à cerner l'imaginaire, et c'est pour ça que l'imaginaire finit par transformer le réel. C'est ça la psychose. C'est l'imaginaire qui fait fondre le réel à sa couleur. Alors que nous, névrosés, on est confrontés à un réel qui nous empêche d'imaginer. On se cogne la tête dessus et on ne va pas le modifier. C'est lui qui va nous modifier, on va se casser le pied dessus.
Mais ce qui est prodigieux, justement, dans le cas de Bruxello, c'est que il arrive à s'exprimer.
Ah oui,
pour moi, l'énigme, elle est là. C'est comment quelqu'un qui a accès à quelque chose de très archaïque, que tu appelles l'artificiel, s'exprime de façon tout à fait normale et a une vie à peu près, une vie créateur. Enfin,
mais il n'est pas fou, lui.
Non, il n'est pas fou du tout. Mais c'est comment, par quel miracle n'est-il pas fou? Et je rencontre un peu le même problème avec Philippe Canix, sur lequel je travaille en ce moment. Je dirais que Brusso, à un certain moment, il est allé plus loin hein, que Dick. Il y a quelque chose de plus organisé chez Dick. Enfin, bon, on peut en discuter, mais comment se fait-il qu'il ne soit pas fou
Le problème de Philippe Dick, ça Hervé me dira ce qu'il en pense éventuellement, c'est qu'il était pris dans quelque chose de très paranoïaque. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans le même état. Alors que Brusso, justement, comme il est dans le matriciel, il parle beaucoup du corps. La littérature de Brusso, c'est une littérature corporelle. Dick, c'est une littérature psychique. Il parle de ce qui se passe dans la pensée et dans le langage. C'est-à-dire que les transformations et ce monde qui ment chez Dick, c'est un monde symbolique. Alors, c'est pas le même registre.